belle RTL. Jusqu'à 11h, Beau Fixe, Sandrine Danse.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi matin. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous êtes levé du bon pied, de la bonne patte, devrais-je dire, puisque la matinée sera consacrée aux chats. Et Alf va être ravi, le chat. Oui, les chats, et pour en parler avec nous ce matin, Julie Williams, bonjour.
Bonjour Sandrine.
On est ravie de vous retrouver, vous êtes comportementaliste animalier et vous êtes déjà venue nous rendre visite quelques fois. Alors on avait essentiellement parlé des chiens,
voilà,
oui. Et de leur comportement, comment décoder un petit peu leur comportement et comment souvent trouver des solutions aussi. Et puis on s'est dit, mais finalement le chat qui a pourtant l'air tellement plus indépendant, on peut avoir des soucis aussi avec nos chats et on va essayer plutôt de les comprendre. Mais d'emblée, est-ce que ce sont vraiment deux manières de se comporter totalement différentes et donc à observer entre chien et chat?
Ah oui, c'est totalement différent. Le travail sur le chat est plus complexe dans le sens où la relation avec le maître est tout à fait différente, et bien sûr ses moyens de communication, son comportement, sa psychologie est totalement différente de celle du chien, en effet.
Est-ce qu'on peut avoir autant de problèmes, entre guillemets, hein, évidemment, avec un chat qu'avec un chien ?
On a un peu moins de problèmes avec les chats, dans le sens où justement ils sont moins... ils souffrent moins, je vais dire, de nos maux à nous. Voilà.
Ah, d'accord.
Donc chez le chien, il y a énormément de troubles comportementaux liés à un non-respect des besoins de l'animal et liés aussi à toutes les émotions négatives que le maître peut transmettre à son animal. On les retrouve aussi chez le chat, mais c'est un petit peu moins fréquent.
Alors si vous avez un chat, ou pas, et si vous les aimez, si vous avez envie de participer, de jouer avec nous, de savoir et de comprendre ce que tente de vous faire passer comme message votre chat d'après son attitude, son comportement, comment il se comporte avec les autres, avec vous, et bien c'est le moment ou jamais de venir tenter votre chance ce matin au 070 344 040. Vous envoyez Beau Fixe par SMS au 3323 si vous avez envie de jouer avec nous. Vous pouvez également nous envoyer vos messages, vos remarques, vos questions, nous les lirons avec beaucoup d'attention. Et ce chat animal fascinant sur bien des points, et c'est vrai que déjà du temps des Égyptiens, il était considéré comme un dieu. Au Moyen-Âge, chez nous, malheureusement, c'était plutôt le diable. Hein, c'est fou ce qu'il a pu véhiculer comme ça, comme image autour de lui.
Oui, c'est vrai, c'est encore le cas dans certains pays. C'est vrai que c'est un animal qui est, de par son côté mystérieux, je vais dire, a suscité effectivement de nombreuses légendes. Et voilà. C'est un animal mystérieux, ça reste un animal mystérieux. Il faut quand même savoir qu'on a fait très très peu d'études sur le chat et sur le chien aussi d'ailleurs, hein. C'est assez paradoxal parce que ce sont les deux animaux domestiques les plus proches de l'homme et pourtant elles font partie des espèces qui ont été les moins étudiées, donc beaucoup moins étudiées que les primates, que certaines antilopes ou certains félins sauvages, et donc on en sait encore très peu finalement sur nos animaux domestiques.
Mais cela dit, ce matin nous on va tenter de vous éclairer quand même. Alors on vous attend, venez jouer, c'est dans Beau Fixe et c'est jusqu'à 11h.
Belle RTL, 9h-11h, Beau Fixe, Sandrine Danse.
Avec Julie Williams qui est comportementaliste animalier. Julie, il y a la page Facebook, la page hein, Julie Williams comportementaliste, le site juliewilliams.be et puis l'adresse mail. Mais toutes les infos sont bien évidemment mises sur notre page Facebook. À nous aussi, on parle du chat ce matin. Et déjà un premier petit SMS de Martine de Damur qui nous dit « Moi j'ai un chat, un sacré de Birmanie, il a un an et il nous mord tout le temps. Pourquoi ?» Et c'est vrai qu'il y a des chats qui mordent, ça fait mal leurs petites dents.
Il y a des chats qui mordent, on peut avoir des agressivités terribles chez le chat, que ce soit par des morsures ou par des griffures, et bon, parfois ça peut être très très embêtant, surtout si on a des enfants en bas âge. Il y a énormément de causes différentes d'agressivité chez le chat, on pourra évidemment pas en parler de tout ici. Une des plus fréquente, c'est une frustration chez un chat qui ne peut pas sortir et donc qui est en manque de chasse.
Ah, donc c'est voilà. Son instinct qui parle, en fait.
C'est souvent son instinct qui parle. Donc si c'est un chat qui a connu l'extérieur auparavant et qui est maintenant enfermé à l'intérieur et donc qui a eu l'occasion de chasser et qui n'a plus l'occasion maintenant, va avoir tendance effectivement à avoir une agressivité qui est souvent dirigée vers les chevilles. Donc c'est quand on passe près du chat, il attrape les chevilles, soit par
ou un coup de patte aussi, oui, c'est ça.
Voilà, soit par des griffes, soit par des morsures, en effet.
Nous allons accueillir Claire. Bonjour Claire.
Bonjour Sandrine.
Et je vous présente Julie qui est à nos côtés ce matin.
Bonjour. Et bonjour Julie.
Alors vous êtes du côté de Mons, vous adorez les chats, vous en avez plusieurs ?
Je n'en ai plus que deux pour le moment.
c'est allé jusqu'à combien ?
Oh, pas plus de quatre hein, quand même.
Ah ouais, mais quand même.
Raisonnable.
Et tout se passe bien avec vos chats ?
Ben oui, là pour le moment j'ai pas de soucis parce que j'ai un gros matou qui est un matou qui m'a adopté donc il y a maintenant une dizaine d'années. Qui était perdue et qui m'a adoptée. Et la petite chatte que j'ai, c'est une chatte qui est née à la maison.
Ah d'accord.
Donc le matou bon, est très très protecteur avec. Et ça se passe vraiment super bien.
Bon, ben tant mieux. Et quels sont leurs noms, Claire ?
Oh ben tout bêtement, Mimi, parce que vu que c'était...
Voilà.
C'est arrivé de l'extérieur, bon, quand c'est comme ça, c'est Mimi, Mimi, et ça lui est resté. Et l'autre, du fait qu'elle était toute petite, elle s'appelle Rasibus.
D'accord, j'adore, c'est trop mignon. Bon, mais Claire, bonne chance à vous. Trois questions, j'ai oublié de reparler du voyage, Claire. Vous savez que vous jouez éventuellement pour une place en finale vendredi et un voyage en direction de la Californie avec des vols United Airlines jusqu'à Los Angeles. Et puis là, vous voyagerez en mode hippie, mais attention, tout confort, puisque vous embarquerez avec la personne de votre choix dans un camper van, comme on l'appelle. On a mis une très belle photo sur la page Facebook. C'est un camping-car, un modèle Ford, hein, assez gros volume, mais très facile à déplacer, j'allais dire, très agile en tout cas. C'est un voyage connection et vous pourrez vous balader durant 7 jours comme vous le voulez. Le retour est prévu en tout cas au départ de San Francisco. Voilà Claire.
Mais le rêve est toujours permis. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Vous ne pourrez pas emmener les chats par contre.
Bah non, bah tant pis.
Ils n'apprécieront pas tout de suite.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. On en reparlera tout à l'heure, tiens, de l'absence des maîtres. Bon Claire, première question, la voici. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, bah, le chat n'est pas aussi distant et indépendant, hein, qui nous le fait croire en tout cas. Ses idées reçues proviennent de comparaisons inappropriées avec un autre animal domestique dont la structure sociale est fondée sur l'appartenance à un groupe. De quel animal parlons-nous ?
Du chien.
Ben oui. C'est-à-dire que, Julie, l'aspect meute, l'effet meute n'existe pas chez le chat ?
Non, voilà. Donc, effectivement, le chat est un animal social, hein, contrairement à ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'il est tout à fait capable d'avoir des contacts avec des congénères et de se prendre d'attachement pour les congénères et également pour l'homme, évidemment. Mais sa structure sociale ne se fonde sur plutôt la question du territoire. Donc, il est beaucoup plus territorial que le chien, qui est pourtant territorial également. Mais ne fonctionne pas sur une base d'une structure sociale, vraiment, donc, telle que l'on retrouve chez le chien, donc meute, avec, je veux dire, l'aide possible, la collaboration possible pour la chasse et d'autres activités comparables.
C'est une première bonne réponse, Claire. Voici la deuxième question. La communication du chat passe notamment par le verbal, hein, donc miauler, ronronner, etc., par la posture, son attitude, mais également par des marquages olfactifs. En effet, les chats utilisent l'odorat pour se reconnaître et communiquer entre eux. Mais comment appelle-t-on ces sécrétions qui proviennent de leur front, des contours de la bouche, et des coussinets et de l'anus ?
Je ne sais pas.
C'est pas la bonne réponse, je plaisante, je vous fais les propositions. Les ergots ou les phéromones ?
Les phéromones.
Mais oui, exactement. Donc ce sera pour le territoire, on l'a dit, mais aussi pour tout ce qui va être relation affective et sexuelle aussi.
Alors les phéromones servent évidemment beaucoup dans la communication sexuelle, ça c'est évident. La femelle en oestrus dégage énormément de phéromones pour avertir le mâle de son état donc
d'acceptation.
Voilà. On va dire ça comme ça. Mais on a beaucoup d'autres phéromones qui servent à la communication, évidemment avec les autres, avec les congénères, avec le maître aussi, tel que par exemple bon, bah, le chat qui va marquer avec ses phéromones des jets d'urine, donc ses phéromones plutôt postérieurs, va signaler un état d'angoisse, de panique, de mal-être. Par contre, on voit souvent, c'est-à-dire les chats qui frottent leur tête sur des meubles ou sur parfois leur maître, qui viennent près de la jambe du maître et ou qui se font frotter la tête quand vous les caressez. Et là, ils cherchent en fait à déposer ces phéromones faciales, donc on les retrouve autour de la bouche, comme on l'a dit, et au niveau du front. Et ça, ce sont des phéromones qui ont un effet apaisant. Donc ça permet au chat de s'apaiser, d'être relax.
Et d'être rassuré.
D'être rassuré, effectivement.
clair. Ils font ça, vos chats, ils viennent se frotter contre vous de temps
surtout
en temps.
Surtout mon gros matou, mon matou adopté, là, je pense qu'il a toujours quelque part une peur de se retrouver abandonné. Et lui, c'est ça, c'est toujours la tête en avant, il vient toujours se frotter, réclamer des caresses. Et oui, ça, c'est toujours avec la tête.
Voilà, bah c'est effectivement voilà, dans le but de se rassurer. On a aussi les phéromones qui sont produites au niveau interdigital, donc au niveau des coussinets. Et ça, c'est important de savoir, c'est intéressant de savoir aussi que les chats qui donc font souvent leurs griffes. Hein, donc
qui pétrissent, comme on dit.
Voilà, ici, c'est plutôt le chat qui va faire ses griffes, donc sur des griffoirs, sur des ou sur des meubles.
Ouais,
c'est pas l'idéal, mais voilà. Et donc, en faisant ses griffes, il dépose aussi des phéromones, justement, qui sont développés par ses glandes interdigitales, donc pour signifier, renforcer son territoire, en fait.
Oui, il essaye même de se frotter contre le chien avec sa tête.
Ah, voilà. Oh, c'est trop mignon.
Ouais,
le chien n'a pas l'air d'accord.
Bah, il n'ose rien dire, parce que c'est le chat qui domine. Pourtant, j'ai un chien qui fait 40 kilos. Hein, mais...
Oh oui, ça veut rien dire.
C'est le chat.
11 points, Claire. Voici la dernière question. Afin d'éviter des griffes, tiens, justement, sur les meubles ou bien les mauvaises surprises en dehors du bac à litière, il est possible de dresser son chat. Pour y arriver, il existe 3 techniques de base. Le renforcement positif, qui consiste à féliciter son chat. La redirection, donc rediriger l'instinct du chat. Mais Claire, quelle est la 3e technique ?
Pareil, je vais vous demander proposition.
D'accord. Est-ce le contrôle à distance ou la punition ?
Ah, le contrôle à distance.
Oui, bah vous l'avez fait par déduction ou vous savez exactement de quoi il s'agit, Claire ?
Bah, je sais que ça ne sert absolument à rien de punir un chat.
Voilà, oui, bravo, voilà. Bravo. Ni un chien non plus d'ailleurs.
C'est par déduction.
Mais qu'est-ce que c'est que ce contrôle à distance alors ?
Alors, le contrôle à distance a pour but en fait de c'est une sorte d'association négative avec ce que le chat est en train de faire, mais qui ne permet pas que le chat fasse le rapport entre cette action négative et le maître. Voilà, donc je m'explique. Ah, oui. Si vous punissez en fait vous-même votre chat, déjà de un, ça ne sert à rien effectivement, mais ça risque de faire pire que mieux, parce que le chat va déjà vous en vouloir et il risque de réagir encore plus fortement dans son comportement négatif. Par contre, le contrôle à distance, ce serait par exemple, lui, imaginons qu'il est en train de sauter sur le plan de travail de la cuisine et que vous voulez...
ça c'est terrible.
Voilà.
Oui.
Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui envoyer un petit jet d'eau, mais à distance. Donc, il ne faut pas que le chat sache... Voilà, il ne faut pas que le chat sache que ça vient du maître. Donc, d'où l'intérêt du jet d'eau, puisque vous pouvez l'envoyer quand même à quelques mètres. Et donc, si vous le faites à chaque fois, le chat va associer, va être conditionné, en fait. Donc, il va comprendre qu'à chaque fois qu'il monte sur le plan de travail, il lui arrive quelque chose de négatif, de recevoir de l'eau dans le visage ou sur le corps. C'est mieux de le faire sur le corps, d'ailleurs. Et donc, il va se dire, si je remonte sur le plan de travail, je vais de nouveau recevoir de l'eau. Comme je n'ai pas envie de ça, je ne vais pas monter sur le plan de travail.
Parce que ce n'est pas tellement le fait qu'il vienne éventuellement piquer dans l'assiette, mais on a parfois peur qu'il se brûle sur les tacs, justement.
Oui, tout à fait.
Les tacs à induction.
Tout à fait. Et puis, ce n'est quand même pas très hygiénique.
Non plus, on est bien d'accord. Non, tout à fait.
Mais c'est intéressant, peut-être juste de signaler ici qu'effectivement, une des idées reçues chez le chat, c'est de croire qu'on ne peut pas éduquer un chat, alors que si. Donc, c'est évidemment plus difficile d'éduquer un chat qu'un chien, mais c'est tout à fait faisable.
Bon, Claire, 21 points, c'est un très joli score, hein, une belle moyenne. On verra ce que font les autres candidats. Si on ne s'entend plus, on vous souhaite une très belle journée. D'accord ?
Merci, vous aussi. Au revoir.
Au revoir, Claire.
Au revoir.
Belle RTL, 9h-11h, Beau Fixe, Sandrine Danse.
Avec Julie Williams, qui est comportementaliste animalier, qui nous accompagne ce matin, puisque nous parlons du chat. Il y a pas mal de SMS qui arrivent, on les lira tout à l'heure et on répondra à quelques-unes de vos questions. Mais nous avons au bout du fil Nathalie, qui est à Grasse-Sologne. Bonjour Nathalie.
Bonjour Sandrine et bonjour Julie.
Bonjour Nathalie.
Tout va bien ?
Tout va bien, oui. Là, j'essaye un petit peu le trac. J'ai mon petit 4 mois et demi dans les bras qui gigote un peu, mais
oh,
ça va aller.
Votre petit chat ou votre petit garçon ou petite fille ?
Mon petit garçon. J'ai 3 garçons. C'est mon 3e qui est 4 mois et demi qui est dans mes bras et voilà.
Bon, d'accord. Donc, vous êtes en congé de maternité, Nathalie ?
Oui, je recommence dans 10 jours à travailler.
Ah, profitez-en bien ! Profitez-en bien. Et alors, en plus des 3 garçons, vous avez un chat.
Oui, un chat qui ne m'a pas rendu la vie facile ces derniers temps.
Pourquoi ?
Comme expliqué à votre collaboratrice en fait au téléphone, depuis que les enfants sont arrivés, donc le plus grand va avoir 6 ans, elle a commencé par... c'était un chat qui était très propre, qui avait sa chatière qui sortait, qui rentrait, qui était très indépendante. On travaille beaucoup, donc on n'était pas tout le temps à la maison, etc. Mais toujours été très nickel. Et du jour au lendemain, elle a commencé à faire ses popos juste à côté du bac, et juste à côté. Alors là, on a commencé, on m'a dit, oh, c'est peut-être parce que les chats sont très propres, une fois qu'ils ont fait pipi dans le bac, ils ne veulent plus réutiliser le même bac. Donc, étant donné que des fois, on était toute la journée à l'extérieur, j'ai mis un deuxième bac, puis un troisième bac. Puis, on est allé chez la vétérinaire. La vétérinaire nous a carrément dit que c'était suite à la naissance du petit à l'époque. Mm-hmm. Donc, elle a mis sous antidépresseur. Elle prenait un quart de comprimé, puis un demi dans sa nourriture. Enfin, c'était la folie. J'ai dû aller acheter des sprays de phéromones, justement, tout à l'heure, vous en parliez.
Mais quel enfer, Nathalie.
Ah oui, j'ai dû. Et des fois, je vous dis, des fois, elle fait popo dans son bac. J'ai remarqué, c'était les journées où on est vraiment tous là, où les enfants sont là, ils sont près d'elle, etc. Et puis après, pouf, voilà, ça s'est passé hier, elle était là. Hier, nous étions tous là avec les enfants, etc. Pouf, dans son bac ce matin. C'est parti, encore à côté. Et maintenant, ça s'accompagne depuis 6 mois de crise de pleurs. On ne sait plus la faire dormir. Avant, elle restait dans le salon. Elle avait sa petite place dans le salon.
Elle a 12 ans maintenant. Hein,
oui, elle a 12 ans maintenant.
Nathalie, on va peut-être demander l'avis de Julie. Est-ce qu'il y a un lien vraiment avec l'arrivée des enfants, avec la présence à la maison ou pas? Est-ce que ça c'est cohérent?
Alors évidemment, il peut y avoir un lien avec l'arrivée des enfants dans le sens où les chats sont des animaux qui adorent les habitudes, qui adorent leur routine et qui sont très, très vite perturbés dès qu'il y a un changement, que ce soit l'arrivée d'un enfant, un déménagement ou même parfois l'arrivée d'un nouveau meuble ou d'un visiteur. Par contre, dans ce cas-ci, je ne pense pas que ce soit le cas, dans le sens où si un chat marque dans le but de se rassurer, il va le faire souvent à différents endroits de la maison. Or, s'il le fait ici, s'il fait ses besoins toujours à côté du bac, ça c'est souvent lié au fait que son bac ne lui convient plus. Alors, soit parce que il n'est pas suffisamment changé, donc il faut nettoyer très très régulièrement et changer la litière très régulièrement. Soit parce que il y a peut-être, je ne sais pas, eu un autre chat qui s'est soulagé dedans ou parce que.
Pardon, je vous ai coupé. Je ne sais pas.
Oui, dites Nathalie.
Parce qu'en fait, elle avait une chatière justement qui donne accès donc au garage où il y avait les bacs. Et la chatière, donc c'était une chatière aimantée, donc il n'y avait que elle qui avait le petit aimant au niveau de son collier qui s'avait rentré. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte à un moment donné que la chatière, à mon avis, était défectueuse et qu'un autre chat était rentré.
Ah ben voilà.
On a réglé le problème, mais malgré ça, et je vous dis, la litière est changée matin et soir.
Voilà, mais alors je vous conseille de changer carrément tout le bac. Changez le bac à litière. Vous jetez le bac à litière, vous en mettez un tout nouveau avec une.
Mais on peut le laisser au même endroit.
On peut tout à fait le laisser au même endroit, mais s'il y a un autre chat qui est arrivé et qui a souillé son bac, un chat peut refuser effectivement de retourner dans son bac.
Ben voilà, Nathalie.
Ah oui.
Bon, vous nous enverrez un petit SMS.
Une consultation gratuite. Hein
pour nous dire si ça a fonctionné ou pas. On y va, on joue, Nathalie.
Bonjour.
Et comment s'appelle votre chat sinon?
Alors c'est Croquette.
Croquette. Bon. Première question, Nathalie. Comme nous l'avons dit, hein, le marquage olfactif, on vient d'en parler à l'instant, sont très importants pour le chat. Il est d'ailleurs un meuble qui lui sera personnel, sur lequel il ne retrouvera que son odeur. Ce meuble est souvent composé d'un ou de plusieurs plateaux, ainsi que de poteaux griffoirs, qui lui permettront de notamment se sentir en sécurité. Comment s'appelle ce meuble dont nous parlons ?
Ah oui, je vois très bien, mais je ne sais plus.
Alors, le panier ou l'arbre à chat ?
Non, c'est l'arbre à chat.
Oui, voilà, tout simplement. Alors, il y en a maintenant, on en fait en couleur, enfin, il y a des designs absolument incroyables. Souvent, on met, passez-moi l'expression, un fric pas possible pour cet arbre à chat, et le chat ne le veut pas.
Non,
alors,
moi, il en a un.
Elle ne le regarde pas. Ah ouais, ça sert à
rien. Alors, des arbres à chat coloris, etc., ça ne sert absolument à rien. Un bon arbre à chat, c'est un arbre à chat qui a des bons poteaux griffoirs, c'est-à-dire couverts de cordes, de bonne qualité. C'est ça que va surtout rechercher le chat, c'est un bon griffoir. C'est un arbre qui va comporter plusieurs plateaux. Donc, plus il y a de plateaux, en général, plus ça plaît aux chats, surtout si on a plusieurs chats, il faut impérativement avoir plusieurs plateaux. Et alors, ce dont le chat a besoin aussi, c'est qu'il y ait une petite cachette. Souvent, dans cet arbre à chat, effectivement, on voit une espèce de petite grotte comme ça, enfin, une espèce de petit. Voilà, ça, ils aiment beaucoup aussi. Et alors, bien évidemment, l'arbre à chat, il faut bien le placer aussi. Hein. C'est parfois pour ça, tout simplement, que le chat refuse son arbre.
C'est-à-dire, bien le placer idéalement.
Alors,
qu'est-ce qu'il faut éviter, peut-être ?
Il ne faut pas le mettre près d'une entrée, par exemple, où il risque d'avoir des allées et venues d'inconnus. Donc, il faut le mettre dans un endroit tranquille, calme, mais pas dans une pièce isolée non plus. Donc, le chat ne va pas vouloir aller dans la buanderie tout seul sur son arbre à chat. Donc, l'idéal, c'est dans un coin du salon, du living, ou même, ce qui est encore mieux, c'est devant une fenêtre. Comme ça, ça lui permet de pouvoir regarder par la fenêtre.
Ah, et moi, j'ai fait tout l'inverse. Je pensais justement que près de la fenêtre, il aurait trop de lumière ou qu'il aurait trop chaud. Oh là là, Nathalie, on est nulle. Enfin, je suis...
Bah moi, je l'avais mis au départ aussi près de la fenêtre, mais pareil, au début, elle allait dessus, puis du jour au lendemain, bon, elle a abandonné.
Alors, parfois, il y a aussi tout simplement, il faut bien vérifier. Et c'est pour ça qu'il faut acheter un arbre de qualité. Mais un arbre de qualité, de nouveau, ce n'est pas un arbre qui a des accessoires ridicules et inutiles. C'est un arbre qui est de bonne matière, de bonne qualité. Donc, dans le sens, surtout, ce qu'il faut éviter aussi, c'est qu'il puisse tanguer, qu'il puisse
bouger.
Voilà, un arbre à chat qui bouge, c'est, il ne sera jamais investi par le chat.
Deuxième question, Nathalie.
Oui.
Véritable outil de modification du comportement, cette technique amusante permet à un chaton de devenir plus confiant et plus sociable. Elle permettra également de corriger des problèmes de comportement auprès d'un chat adulte. De quelle technique s'agit-il, Nathalie ?
Je vais vous demander les propositions, si vous voulez bien, parce que...
Le jeu ou la communication ?
Le jeu ?
Ben oui, le jeu. Mais ça, c'est valable aussi pour les chiens. Enfin, voilà. Le jeu, et d'ailleurs, c'est instinctif chez tous les animaux tout petits. Le jeu fait partie de ce qu'on appelle la
socialisation. Voilà. Alors, en fait, le jeu, effectivement, on le retrouve chez tous les animaux petits. Mais ce qui est particulier du chat, c'est que c'est un animal qui continue à jouer toute sa vie. Le chien aussi, mais moins. C'est beaucoup plus fréquent. C'est beaucoup plus normal, en fait, chez un chat. C'est-à-dire qu'il faut même considérer qu'un chat adulte qui ne joue plus, il y a un problème. Et donc l'avantage du jeu, ça permet de rassurer le chat, ça permet de lui donner confiance en lui, ça permet de renforcer aussi la relation avec son maître, parce qu'évidemment il ne suffit pas juste de fournir au chat quelques jeux et le laisser se débrouiller tout seul. Le chat a aussi besoin que vous jouiez avec lui. Donc on appelle ça le jeu interactif, donc vous allez renforcer votre relation. Et alors on peut également utiliser justement ce jeu interactif dans l'éducation ou dans la rééducation, dans le traitement des troubles comportementaux. Voilà, on l'avait vu tout à l'heure, pardon, excusez-moi, on l'avait vu tout à l'heure, donc une des techniques d'éducation, on avait la redirection. Et bien dans la redirection, justement, on va utiliser le jeu pour rediriger l'attention du chat sur autre chose que sur ce qu'il s'apprêtait à faire.
Ok.
Nathalie, vous avez 8 points, vous êtes obligée de répondre avant les propositions à la dernière question.
D'accord.
Pour avoir 28 points. En termes de nutrition, il est important de ne pas faire n'importe quoi. Un chat a besoin d'une alimentation équilibrée. Il faut savoir qu'un chat a par exemple besoin de plus de graisse que les humains. Oh, ils ont de la chance. Quant aux protéines composées d'acides aminés, eh bien, il est essentiel qu'il en ait en quantité suffisante parce qu'il y a dans ces acides aminés une particularité. Mais laquelle ? Ils contiennent quoi ?
Non,
c'était de la taurine dont on attendait.
J'aurais pas su répondre.
Oui, c'est une question difficile.
Oui.
Donc la taurine est un des acides aminés qui est vraiment capital pour le chat. Donc c'est pourquoi le chat a besoin d'une alimentation parfaitement adaptée. J'en profite pour rappeler ici qu'un chien ne peut pas manger la nourriture de chat et qu'un chat ne peut pas manger la nourriture de chien. Alors un chien ne peut pas manger la nourriture de chat justement parce que cette nourriture est hyper protéinée et donc ne lui convient absolument pas, peut-être néfaste sur du long terme. Et un chat ne peut pas manger la nourriture de chien justement parce qu'elle est hypoprotéinée et que donc il risque d'être en manque de protéines et surtout de taurine sur le long terme aussi.
Raison pour laquelle on voit beaucoup plus souvent un chien aller manger les croquettes du chat que l'inverse.
Oui, tout à fait, parce que les croquettes de chat justement sont plus grasses et plus riches en protéines et donc sont très attirantes pour le chien.
D'accord.
Et donc la meilleure façon de veiller à ce que l'un ne mange pas la nourriture de l'autre, c'est de placer la gamelle du chat en hauteur, tout simplement. Quant à la gamelle du chien, on l'avait vu lors d'une autre de nos émissions, il faut la retirer dès que le chien la délaisse, donc dès qu'il a terminé son repas.
Bon Nathalie, ça se fera pas pour cette fois-ci.
C'est pas grave, on essaiera une prochaine fois.
Bon, cet après-midi, vous allez en balade avec le petit jusqu'à un magasin, acheter donc un nouveau bac à litière.
Oui, c'est ce que je vais faire.
D'accord, et on vous fait de gros bisous, Nathalie. Bonne
gros
journée.
Gros bisous à toutes et merci beaucoup. Une bonne journée. Au revoir.
Au revoir, Nathalie.
Belle RTL, 9h-11h, Beaufix, Sandrine Danse.
C'est une émission consacrée aux chats ce matin avec Julie Williams qui est comportementaliste animalier. Je rappelle votre site internet www.juliewilliams.be et puis la page Facebook, la page donc Julie Williams comportementaliste. On a beaucoup de réactions ce matin sur notre page Facebook, notamment beaucoup de questions et pas mal de SMS aussi. Celui-ci notamment sur Facebook où une jeune femme nous dit tiens, mon chat souffre-t-il de mon absence quand je pars la journée et quand je rentre, je n'ai pas de signe, on va dire, de mécontentement, il ne manifeste rien. Alors je me pose la question, est-ce qu'il souffre de mon absence ou pas ?
Alors les chats souffrent beaucoup moins de la solitude que les chiens, évidemment, comme on l'a vu lors de la toute première question, si je me souviens bien. Le chat n'est pas un animal purement indépendant, c'est un animal social, mais il est quand même plus indépendant que le chien. Et surtout, il est beaucoup plus attaché à son territoire qu'à son maître, contrairement au chien. Donc le chien, lui, il suivrait son maître jusqu'au bout du monde, peu importe l'endroit, l'hôtel, l'auberge de jeunesse, la tente, enfin, il s'en fout. Tandis que le chat, ce qui est important pour lui, c'est de rester sur son territoire. Donc, il faut surtout pas se culpabiliser de partir et de laisser son chat seul du moment qu'il est chez lui, qu'il a accès à toutes les pièces ou la plupart des pièces, voire qu'en plus il a accès à l'extérieur. Il va s'occuper sans aucun problème jusqu'au retour de son maître. Donc, il n'y a pas de problème.
L'histoire du territoire, c'est la raison pour laquelle on entend souvent des gens qui ont déménagé parfois à quelques rues et qui voient leur chat partir alors qu'il a l'habitude qu'il ne revient pas. Ils le retrouvent devant l'ancienne maison. Ça arrive souvent, ça.
Oui, tout à fait. C'est vraiment une perturbation. Je dirais que c'est presque une des pires perturbations pour un chat de déménager. C'est voilà, quitter son territoire, quitter... Comme je le disais tout à l'heure, ne fût-ce qu'un nouveau meuble dans la maison ou un meuble qui a été déplacé de 15 cm peut perturber un chat. Alors on imagine qu'un déménagement, c'est
ouais. Voilà. Laurent par SMS nous dit « J'ai un chat qui s'est invité, qui est une terreur pour mes deux autres chats, mais qui est super affectueux. Alors comment faire ?» C'est vrai que quand c'est le chat qui vous choisit, qui choisit la maison, c'est pas toujours évident.
Alors comment faire ? Bon, bah là évidemment, il faut que la personne, il faut que Laurent se dise « Bon, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Est-ce que c'est garder mes deux chats et tant pis pour celui qui s'est invité ?» Bon, dans quel cas il faudra trouver un moyen de le faire fuir ou est-ce que voilà, je l'accepte mais au détriment de mes deux chats qui sont déjà là. C'est vrai que c'est pas toujours facile pour un chat ou plusieurs chats présents dans la famille, dans la maison, d'accepter la présence d'un troisième si en plus celui-là n'est pas très facile, pas très sympa avec les deux anciens. Bon ben voilà, c'est à lui de prendre la décision à ce niveau-là, soit de privilégier le nouveau venu, soit de privilégier les deux chats. Bon, maintenant, peut-être qu'à force, avec le temps, ils vont s'habituer. Mmh. Hein, c'est possible aussi, bien sûr.
Et puis encore un message, mon chat me tête tout le temps.
Alors ça, en fait, c'est assez courant et c'est très souvent lié à un sevrage un peu trop précoce. Donc une séparation avec la maman qui a été trop rapide, trop tôt, trop précoce. Et donc le chat, en fait, reproduit ce comportement infantile de téter. Mais au lieu de téter, évidemment, sa maman qui n'est plus là, il va garder ce comportement toute sa vie ou une partie de sa vie et téter effectivement des objets ou carrément son maître. Si le chat n'a pas été sevré trop tôt, ça peut être un signe simplement du fait que le chat est un peu une personnalité un petit peu sensible, il n'est pas très à l'aise et donc voilà, le fait d'avoir ce comportement, ça le rassure également.
On avait parlé quand on avait fait une émission consacrée aux chiens, on parlait de l'importance du choix du chiot, de l'observer, de voir son comportement, son attitude, notamment avec les autres chiots, avec les humains. Est-ce que c'est pareil pour des chatons ? Ça m'a l'air d'être beaucoup plus compliqué pour des chatons au moment du choix.
Alors évidemment, bien sûr, comme pour le chien et comme pour tous les animaux, et je dirais même l'homme aussi, bien sûr, les premières semaines ou les premiers mois de vie sont primordial dans le développement de la personnalité, de la confiance de l'animal tout au long de sa vie. Donc c'est évident que si le chat n'a pas été manipulé, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, un chaton qui n'aurait pas été manipulé pendant ses premières semaines de vie, c'est un chat qui ne va pas apprécier facilement les caresses, le fait d'être pris sur les genoux, etc. Donc bien sûr que ce qu'a vécu le chaton ou la relation avec sa maman, si sa mère s'est bien occupée de lui ou pas, si comme je le disais il n'a pas été sevré trop tôt, etc. Donc tout ça va évidemment son environnement aussi, l'environnement qu'il a connu. Si c'est un environnement hypostimulant pendant ses premières semaines de vie, il va être beaucoup plus vite perturbé par des modifications de son environnement plus tard ou par des environnements hyperstimulants. Donc il faut faire attention effectivement au choix du chaton en fonction de ce qu'il a connu dans ses premières semaines de vie.
Bon, mais si vous voulez venir jouer avec nous ce matin, 070 344 040, SMS 33 23, vous êtes les bienvenus. Claire est en tête pour le moment avec 21 points. Et puis bien sûr, on vous lit par SMS et sur la page Facebook de Beaufix.
Belle RTL, Beaufix, Sandrine Danse.
On parle du chat ce matin, il y a de sympathiques messages. Quelqu'un qui nous dit « Bonjour, j'ai pas de chien, j'ai pas de chat non plus, mais je suis la seconde résidence de ceux de ma voisine avec des petits smileys. » C'est vrai que, et on peut l'observer, moi ça me fait toujours rire, il y a des gens parfois qui disent ne pas aimer les chats. Et systématiquement, quand ils vont dans un endroit, on peut être sûr que le chat va venir chez eux. C'est toujours très drôle parce qu'on voit leur tête, ils savent pas très bien comment se mettre. À croire qu'ils ont ce côté un petit peu filou de se dire « Ah toi, j'ai l'air de te déranger, mais tu vas voir, je vais venir près de toi. »
Oui, c'est vrai.
On a Laurent au bout du fil. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour.
Je vous présente Julie Williams, qui est comportementaliste animalier, qui est là pour nous conseiller ce matin.
Bonjour Laurent.
Alors, c'est vous Laurent, le coup des deux chats tout à l'heure, le SMS ?
Mais oui.
Ah, c'est vous ! Parce que je vois trois chats, dont un qui s'est invité. Et donc finalement, quelle décision vous avez prise, Laurent ?
Mais pour l'instant, donc on a deux chats qui sont à l'étage avec nous dans les chambres. Et alors, il y a un chat qui s'est invité, qui a accès au jardin, au salon et tout. Et on les a séparés par la porte. Parce que le chat d'en bas, on va l'appeler comme ça, quand il est très jaloux. Il poursuit un peu les chats. Quand il monte, il poursuit les chats et c'est bagarre. On a déjà essayé les phéromones liquides et ça n'a pas donné de bons résultats. Donc voilà.
Alors, on va préciser que les chats de l'étage, qui étaient là avant, oui. Laurent, oui, c'est mère et fille.
Oui.
Parce que ça peut peut-être influencer aussi.
Et la mère s'est invitée aussi, un jour.
Oui.
Ah oui, donc vous n'avez jamais, vous n'êtes pas allé chercher des chats, ils sont venus chez vous.
Voilà, c'est un peu ça.
Mais le fait que les chats s'invitent, évidemment, ça c'est pas trop problématique. Maintenant ici, bon, ce qui est un peu triste, je dirais quand même, c'est que du coup, les deux chats qui étaient là avant sont relégués à l'étage, n'ont plus d'accès au jardin et aux pièces principales de la maison. Donc bon, voilà. Maintenant, c'est sûr que les garder enfermés, ça ne va pas améliorer le problème. Donc il faudra trouver une solution si vous souhaitez garder le nouveau chat pour essayer de les faire s'accepter l'un l'autre. Et ça, on le verra un petit peu plus loin, je pense. On parlera de ça.
Bon Laurent, on y va ? 21 points, c'est le score à égaler ou à battre. Il est détenu par Claire.
Ok.
Bon, et vous l'avez baptisé ce gros matou ?
Oui, on l'a appelé Chacha.
Ah, j'adore ! Quand un chat, c'est vrai, arrive comme ça, adulte, et qu'on ne sait pas, on leur donne toujours des noms papas.
Le chat.
Il y a des papas Chacha. Il y a des... Bon, on y va. Première question, Laurent. Oui. La posture d'un chat va nous donner pas mal de renseignements sur son humeur, hein, vous êtes bien d'accord ? Alors, quand vous voyez cette partie de son corps qui est dressée à la verticale, le chat est bien éveillé. À l'inverse, à l'horizontale ou légèrement penché, le chat est détendu. Elle peut être également remuée ou hérissée. De quelle partie du chat s'agit-il ?
La queue.
Exactement. Alors, il y a aussi quand il la balance comme ça et qu'il a l'air d'être un peu... C'est son côté très félin. C'est plutôt quand il est agacé, alors.
Alors, attention, il y a plusieurs balancements.
Hein. Ah.
Donc, oui. Plusieurs balancements et aussi plusieurs interprétations différentes en fonction de la position de la queue au moment du balancement. Alors, les balancements d'agacement, ce sont plus que des balancements. C'est vraiment une queue qui bat de gauche à droite.
Rythmé, ah oui.
C'est très rythmé. L'amplitude est assez grande. Le mouvement est rapide. Rapide. La queue qui bouge est rapide, mais entre deux balancements, c'est plus lent. Donc ça, c'est effectivement, c'est le coup typique du chat qui est agacé. Maintenant, on peut avoir des légers balancements de la queue, justement, quand elle est dressée. Et donc ça, c'est plutôt affectueux. Donc,
ah, d'accord.
C'est tout à fait différent. On a aussi le balancement quand le chat est au repos, quand il est couché. Parfois, il fait des petits mouvements du bout de sa queue. Mmh. Donc ça, c'est une façon de dire, voilà, je me repose, mais attention, hein, je suis là quand même, je suis quand même vigilant. Donc, et voilà, il y a plein de balancements différents. Et comme pour le chien, de nouveau, où on dit souvent il balance sa queue, donc ça veut dire qu'il est content. Bon, attention, hein, non, vous avez plein d'interprétations différentes en fonction du type de balancement de la queue.
Et puis il y a les oreilles aussi, hein, la position des oreilles.
Il y a la position
beaucoup.
Des oreilles, il y a les poils, est-ce qu'ils sont hérissés ou pas, la position de la tête, la position des pattes. On peut s'amuser vraiment à comprendre, vraiment à comprendre la communication du chat en fonction de chaque posture séparément.
Laurent, pour l'instant tout va bien, voici une deuxième question. Un des moyens de communication de votre chat, c'est aussi, bien entendu, la communication verbale, d'accord ? Alors certaines races, et notamment des races orientales, sont plutôt des races particulièrement bavardes, telles que cette race-ci que nous recherchons. C'est un chat à poils clairs et aux extrémités foncées. De quelle race parlons-nous, Laurent ?
Le châssis à moi.
Ah, tout juste, oh, tout juste, vous avez pensé aux aristochats.
Alors,
c'est vrai que y a des races qui parlent, qui sont plus bavardes que d'autres, quand on le sait tant mieux, mais c'est vrai qu'un chat qui est extrêmement bavard, ça peut être agaçant.
Oui, ça peut être agaçant, mais c'est très très souvent provoqué par le maître.
Ah fait. Bon ?
Ah oui.
Qui suscite ça,
donc c'est-à-dire qu'il suffit d'une fois où le chat miaule parce qu'il demande effectivement avoir à manger, ou qu'il demande l'une ou l'autre chose, et paf, directement on réagit, on saute pour venir en aide à son chat, pour obéir à son chat, j'ai envie de dire. Très très vite vous créez un conditionnement, c'est-à-dire que le chat comprend que quand il miaule, il obtient ce qu'il veut.
Ah oui.
Et donc il va commencer à miauler de plus en plus souvent, de plus en plus fortement, de plus en plus fortement aussi, pour obtenir ce qu'il veut. Donc c'est très très souvent provoqué par le maître, dans un but vraiment de recherche d'attention et recherche d'obtention de ce qu'il souhaite.
Est-ce que, comme pour un chien, vous allez me dire c'est peut-être un drôle de parallèle, mais parfois un chien, quand il aboie avec certaines attitudes, donc montrer le doigt ou faire chut tout simplement ou non, il va arrêter. Est-ce qu'on peut arriver à ça avec un chat aussi ?
Alors non, dans le cas du miaulement ou de l'aboiement qui a pour but d'attirer l'attention, parce que bien sûr le chien fait ça aussi, aboyer, gémir, pleurer pour attirer l'attention de son maître, la seule technique la plus efficace et la seule technique, c'est de ne pas réagir, d'ignorer totalement son animal. Donc ce qu'il souhaite, c'est attirer votre attention. Donc s'il reçoit votre attention, même si c'est pour lui dire chute ou tais-toi ou quoi que ce soit, il reçoit quand même de l'attention. C'est de l'attention négative, mais c'est de l'attention quand même. Donc il va continuer.
Achetons des boules qui est. Vous avez 16 points, donc deux possibilités, Laurent. Soit vous attendez à l'aise les propositions, vous aurez 26 points, soit vous répondez avant, si vous êtes certain, et vous faites un parcours sans faute.
Ok.
Un chat tient à ses habitudes, vous l'aurez certainement remarqué, mais il est possible pour lui d'accepter des changements si c'est fait avec douceur et patience. Par exemple, lorsque le chat doit se voir partager du jour au lendemain son quotidien avec un autre chat, tiens, ça vous concerne, via quel sens le premier véritable échange entre ces chats devra-t-il se faire ? La vue ou l'odorat ?
Je dirais l'odorat.
Bah oui, exactement. Pourtant, on a l'impression, parce que parfois ils se toisent d'un arbre à un autre jardin, etc. On entend.
Ah mais justement, ils se toisent. Donc visuellement, les chats peuvent comprendre l'attitude de l'autre beaucoup plus comme de la menace. Et on aura d'ailleurs très 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 souvent de la menace. Tandis que de façon olfactive, les chats ne vont pas sentir de menace dans une première étape. Donc ici, justement, ce que je vous conseille, Laurent, effectivement, ça vous concerne totalement, c'est de caresser le nouveau venu avec un tissu, un gant, par exemple. Vous le caressez bien et vous insistez surtout au niveau de ces glandes qui sécrètent des phéromones, donc au niveau du visage, par exemple. Et une fois que vous l'avez bien caressé, vous déposez le tissu, le gant, dans la pièce où se trouvent les deux autres chats. De façon à justement ce qu'il fasse connaissance avec le nouveau venu, et vous faites la même chose évidemment dans l'autre sens.
Donc
vous caressez les deux chats avec chacun un gant différent que vous mettez près du nouveau venu. Donc ça, c'est une première étape pour obtenir plus facilement une acceptation de chat l'un par rapport à l'autre, et puis évidemment d'autres étapes par la suite à respecter si on veut que ça se passe pour le mieux.
Voilà Laurent, 26 points, on embrasse Claire. Vous êtes en tête pour le moment, on verra ce que fait le ou la dernière candidate. On parlait des habitudes, il y a un SMS qui nous dit « Voilà, depuis une semaine, j'ai des poissons rouges que j'ai mis sur un meuble où mon chat aimait rester 4 heures. Eh bien, pendant plus d'une semaine, il a évité le meuble. » Ah oui, on lui a pris sa place en quelque sorte.
Voilà, c'est ça, on lui a pris sa place et puis de nouveau, changement d'habitude, donc voilà. Perturbation pour le chat.
Même si ce sont des poissons, hein, comme quoi. Bon, oui. Ben Laurent, on vous embrasse, à tout à l'heure peut-être.
À tout à l'heure.
Bonne chance.
Belle RTL, 9h-11h, Beaufix, Sandrine Danse.
On a énormément de messages ce matin par SMS et sur la page Facebook de l'émission. Effectivement, on se rend compte à quel point vos chats d'abord vous font rire, vous amusent et vous causent parfois des petits soucis ou vous inquiètent aussi. Il y a juste ce petit message parce qu'on parlait de séparation tout à l'heure. Quelqu'un qui nous dit nous avons à la maison un chat, Mortimer. Je ne sais pas si c'est la race du chat ou si c'est son prénom. Il va aller en pension pour la première fois. Avez-vous un conseil parce que nous sommes un peu anxieux?
Alors, bon, là, je vais m'excuser à l'avance pour ma franchise, mais le fait de mettre un chat en pension, c'est une très mauvaise idée. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chat est foncièrement territorial. Donc, le fait de le mettre ailleurs, donc, le fait d'être séparé de vous, déjà, bon, vous allez le laisser seul, bon, c'est un petit peu perturbant tout de même. Mais en plus, on le met ailleurs que dans son territoire. Donc, ça risque de créer un vrai, vrai traumatisme. Donc, c'est absolument à éviter. Par contre, il faut savoir qu'on a de plus en plus maintenant en Belgique et surtout à Bruxelles ce qu'on appelle le métier de cat-sitter. Donc ce sont des gens en fait qui vous proposent de laisser votre chat à domicile quand vous partez en vacances et qui viennent lui rendre visite une à deux fois par jour en fonction de vos souhaits et qui restent une demi-heure à la maison, trois quarts d'heure, qui le caressent, qui lui donnent à manger, qui lui remplissent son bol d'eau, qui le sortent un petit peu, etc. Et ça c'est vraiment la meilleure solution. La meilleure. Par contre, je tiens vraiment absolument à dire que cette solution-là n'est absolument pas à envisager pour le chien. Le dog-sitting est à fuir. Donc autant le cat-sitting peut être extraordinaire, donc c'est la meilleure solution pour le chat, autant cette solution est catastrophique pour un chien qui n'en a rien à foutre de rester sur son territoire. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir de la compagnie. Donc lui, ce qu'il lui faut, c'est d'aller chez quelqu'un ou éventuellement en pension. Ou, voilà. Donc,
il serait avec d'autres chiens.
Ouais. On en revient effectivement au fait que le chat et le chien sont totalement différents.
Ou demander à un voisin, une voisine, parfois, c'est donnant-donnant, hein, en disant voilà, je pars une semaine, si vous pouvez, si ça se fait en toute confiance. Effectivement, venir faire un petit coucou au chat.
Voilà, pour le chat. Ouais.
Ouais. Oui, pour le chat, ouais. Pour le chat. Bonjour Florence.
Bonjour Sandrine.
Et je vous présente Julie. Bonjour, Julie Williams.
Bonjour Florence.
Oui, enchantée. Bonjour Julie.
Vous êtes du côté de Morlanwé. Vous êtes, Vous l'avez dit, une passionnée de chats. Vous en avez combien, Florence?
J'en ai 6.
D'accord. Et tout va bien?
Tout se passe à merveille, ils s'entendent très très bien, dorment ensemble, se font des câlins, tout se passe bien et ils ne sortent pas de la maison et sont très très liés les uns aux autres.
Ce sont des chats de la même, j'allais dire, de la même famille, c'est genre mère, fille, sœur, père, je sais pas.
J'ai une femelle qui a 7 ans maintenant, j'ai son frère. Pour le reste, non, ils ne sont pas liés les uns aux autres.
Et vous avez une race en particulier ou ce sont des chats de gouttière, comme on dit?
Alors j'ai des chats de gouttière, donc trois mâles qui sont trois roues, parce que j'adore les chats roues. Et en femelle, j'ai deux persanes. Et une autre qui est à long poil, mais qui n'est pas de race.
Ouais. Stérilisés, tous et toutes?
Tous, oui.
D'accord,
tous,
on va rappeler que c'est une obligation.
Une obligation hein. Oui, de stériliser les femelles.
Bon, voilà. Florence, alors on y va. Trois questions, ok?
Oui.
Et 26 points, qui est le score à égaler ou à battre, qui est détenu par Laurent. Écoutez cette première question. En comptant l'ouïe et l'odorat, le troisième sens particulièrement important pour le chat est sans conteste la vue. Excellente perception de la profondeur, ils sont également capables de voir dans le noir presque total. Autre particularité est qu'ils ont ce que l'on appelle une membrane nictitante, repliée au coin externe de l'œil et qui se déplie pour le protéger. Mais comment appelle-t-on plus communément cette membrane, Florence ? Alors, la troisième paupière ou la troisième pupille?
La troisième paupière.
Oui, voilà, tout ça. Oui, voilà. Donc en fait, c'est vraiment, ça a le rôle d'une paupière.
Ça a le rôle d'une paupière. On le voit, en fait, c'est un petit bout rose, si on peut dire, qui se trouve du côté interne de l'œil et qui, quand il se déplie, a également un rôle de protection de l'œil, qu'on ne retrouve pas chez l'humain, par contre.
D'accord. Et on dit effectivement qu'il voit extrêmement bien dans le noir. J'ai lu dans un bouquin, on a eu un invité il y a quelques jours sur ces brèves scientifiques qui disait qu'il pouvait voir jusqu'à une quinzaine de nuances de gris différents, je pense.
Oui, en fait, les chats voient très très bien, enfin beaucoup, beaucoup d'animaux en fait, hein, voient très très bien dans le noir parce qu'ils ont ce qu'on appelle le tapetum lucidum, qui est en fait une petite couche dans le fond de l'œil qui renvoie la lumière vers la rétine. Et c'est ça qui leur donne leurs yeux verts, en fait, leurs yeux brillants quand on les voit dans le noir. Ah, c'est voilà. Le tapetum lucidum.
Florence, oh là, je commence à bugger. Deuxième question. On va parler de la toilette du chat. La toilette du chat a deux fonctions. L'évacuation d'une tension face à une situation de stress, mais également la toilette à proprement parler, évidemment. Alors pour cette seconde fonction, pour la toilette à proprement parler, le chat enlèvera les particules étrangères à son corps et déposera sa salive sur tout son pelage. Mais pour quelle raison, Florence ? Pour la rendre isolante ou pour la rendre brillante ?
Pour la rendre isolante ?
Oui, vous n'êtes pas tombé dans le piège. On dit toujours « Ah oui, il se fait beau », pas du tout.
Voilà, donc c'est vrai que en se léchant, forcément, le poil brille aussi. Donc mais bon, bien sûr, le but du chat n'est pas de faire briller son pelage, c'est de l'isoler. Donc en se léchant, en fait, il recouvre, il étale bien les huiles naturelles de sa peau, il les étale bien sur son pelage et donc ça lui permet d'avoir une isolation du froid, de la chaleur aussi, et alors une isolation de l'humidité également. Donc c'est une fonction fort importante dans le toilettage.
Alors quand on disait évacuer les tensions face à certaines situations, il y a des chats qui peuvent commencer à se lécher, à se laver par stress.
Alors, c'est pas il y a des chats qui, c'est vraiment tous les chats font ça. Voilà, c'est très 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 courant. Beaucoup beaucoup de chats se lèchent, par exemple, quand il y a eu un invité à la maison, ben, au moment où l'invité est là, ou bien quand il repart, ils vont se lécher pour effectivement évacuer ce stress. Ça peut être pour évacuer une frustration aussi. Donc on observe ça, par exemple, pour les chats qui, on voit ça souvent. J'ai les chats qui regardent par la fenêtre et qui voient un oiseau ou une petite musaraigne ou quelque chose, et alors ils sont frustrés de ne pas pouvoir aller chasser la petite proie, et donc à ce moment-là ils se mettent à se lécher vraiment pour évacuer cette énergie et surtout cette frustration.
Je vais crevoir, mais son robinet,
parce qu'il a pas ça, un titi et
robinet. Je vais t'attraper, titi.
Bon, Florence, excusez-moi, j'ai besoin absolument d'un week-end. Faut que je sorte. J'ai des animaux qui naissent en moi. Vous avez 8 points. Vous pouvez encore l'emporter si vous répondez avant les propositions. Mm-hmm. Rominet, ça c'est chouette comme nom aussi pour un chat.
Rominet.
Alors, Florence, lorsque votre chat ne fait pas ses besoins dans son bac à litière, il vous faut le rééduquer. Pour y parvenir, il est nécessaire de respecter 4 étapes. Nettoyer et neutraliser l'odeur des endroits souillés, attirer votre chat ailleurs en y déposant, par exemple, des phéromones, le dissuader en y déposant un bol de nourriture et modifier son comportement à l'aide de jeux. Mais si malgré cela, le problème persiste, que faut-il faire, Florence ?
Mettre quelques gouttes d'eau de Javel dans la litière ?
Ah ! Vous devriez voir la tête de Julie ! Alors ça fait partie de ce qu'on va appeler ces croyances populaires qui ne fonctionnent pas du tout, Florence. Non, pas du tout.
J'espère que je n'ai pas été filmée sur ce coup-là.
Non, la bonne réponse était, et on va vous expliquer, Florence, le confiner dans une petite pièce. Alors on va d'abord expliquer ça et puis on va expliquer pourquoi le coup de l'eau de Javel est à proscrire.
Alors justement, donc il faut jamais, jamais utiliser d'eau de Javel dans le cas d'une malpropreté, que ce soit chez un chat ou chez un chien. Alors pourquoi ? Parce que dans l'eau de Javel, vous avez des composés ammoniaqués, comme dans l'urine. Et donc, si pour nous, l'eau de Javel, ça sent bon, ça sent le propre, et l'urine, c'est l'inverse, ben, en fait, pour un animal, si vous mettez de l'eau de Javel à un endroit où il a uriné, ben, c'est vraiment comme si un autre chien ou un autre chat avait fait ses besoins à cet endroit-là. Donc, au contraire, ça va l'inciter à refaire ses besoins à cet endroit-là.
Et alors, le confiner dans une petite pièce, ça va
Alors ça, c'est vraiment la solution de dernier recours. Ah, d'ailleurs, oui. On l'a vu, oui. il y a quatre autres solutions avant. Le confiner dans une petite pièce, oui, parce qu'un chat étant un animal très très propre, il ne va jamais souiller sa litière. Donc si ça arrive, c'est que c'est un trouble comportemental fort important. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on conseille, c'est de le mettre dans une petite pièce et de mettre vraiment d'un côté de la pièce sa couche, son petit panier, son arbre à chat, peu importe. Et de l'autre côté, on va mettre son bac à litière. Et du coup, le chat sera obligé, en fait, de se soulager dans son bac, ah oui. puisqu'il ne va pas vouloir faire près de sa litière.
Bon, Florence, on vous fait de gros bisous et oui, on vous souhaite aussi. Encore beaucoup de bonheur avec tous vos chats, d'accord ?
Merci beaucoup.
Au revoir, bientôt, Florence. Au revoir. À bientôt. Laurent, on se retrouve demain pour la finale, d'accord ?
D'accord.
Et vous aurez donc, comme on dit, la main. Vous allez pouvoir en premier choisir le sujet avec lequel vous jouerez. Vous ne pouvez pas reprendre les chats. Non. Et vous redistribuerez les autres sujets de la semaine aux autres candidats. On a parlé du disco hier, les petites brèves de culture générale, ça c'était mardi. Et lundi, nous allons parler de football et de Coupe du Monde de football.
Ouh, super.
Redites-le un peu que je vois si c'est vrai.
Ouh, super.
Ouais, c'est pas mieux en fait. Bon, allez, on en reparle demain. Bonne journée Laurent, félicitations.
Merci, au revoir.
On a reçu énormément de questions, énormément de messages évidemment. Julie, on peut pas tous les reprendre et y répondre, mais on vous promet sincèrement qu'on refera bien évidemment une émission consacrée aux chats. Je rappelle votre page Facebook Julie Willems comportementaliste, le site www.juliewillems.be si vous avez envie d'entrer en contact avec Julie et si vous voulez voilà, avoir des solutions quant au comportement de vos chiens et chats. Merci beaucoup Julie.
Et autres animaux domestiques
voilà.
aussi.
Hein, voilà.
Merci à vous Sandrine, à très bientôt.
À très bientôt. Belle RTL.